Paillettes avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Salut.
Ah, tabarnouche.
Hey, moi, j'ai préparé mon menu avant...
Ben, faut jamais faire ça.
Ben non, mais écoute, avant les tarifs...
Si tu m'envoies ça le mardi.
Puis avant les, avant les paradis fiscaux, parce qu'on parlera pas de ça, mais on a quand même en masse de matière. Je suis pas inquiet.
Bon, alors ben, lançons-nous, soyons fous. Veux-tu en parler tout de suite de cette annonce de M. Trump? Régler ça tout de suite.
Ben écoute, c'est une onde de choc. Là. Je regardais les mines à la télé hier, des commentateurs et des gens dans les médias, puis bon... L'impact de ça va être absurde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là. Avec lui, on ne sait pas. Là. Il pourrait nous arriver avant fin de semaine et dire « Bon, ben là, ça ne sera pas ça, ça va être autre chose. »
J'ai parlé à M. Carney. Jacques Letourneau me dit on sait comment ça va se dérouler. Là. M. Carney, s'il est élu premier ministre, là,
ouais, mais ça, c'est dans un mois.
Ils vont s'asseoir puis ils vont régler ça à 10%.
Oui, mais même à 10, c'est beaucoup, ça va nuire à notre
industrie. Mais sachez qu'il va y avoir une augmentation, mais que ces gens-là vont à un moment donné s'asseoir.
Mais quand tu y penses, c'est des gens d'affaires. Ça va nuire à tout le monde, y compris aux Américains, parce déjà, l'automobile, les prix de l'automobile explosent depuis des années.
Une voiture aux États-Unis là, qui a transité par le Canada, ça va augmenter de 3 000 à 12 000 $.
Imagine. Alors, honnêtement, je l'ai écouté hier, là, quand il a annoncé ça, tout fier, puis avec montré son décret avec son gros Sharpie puis toute la patente.
Est belle sa signature.
Ben moi, je
trouve pas... graphiquement intéressant.
Ouais, mais
c'est là que ça s'arrête.
Ça s'arrête là parce que je vois pas en quoi ça correspond à Donald J. Trump. En tout cas, peu importe. Mais écoute, c'est encore une fois, puis je reviens à ça, c'est l'incertitude que ça crée, c'est la panique dans les marchés, c'est toute la réorganisation. Tu sais, comme il disait hier là, de son bureau avant, alors là, l'acier, ça roule à fond. C'est pas vrai qu'il y a des usines d'acier qui se sont bâties depuis deux semaines, ça se fait pas de même. Mais lui, tu sais, c'est son spin, son discours. Oui. Ah, ça roule à fond, puis là, t'as tellement appelé, puis ils vont tout rapatrier
ici. Le roi des menteurs, c'est
ben
lui.
Oui, mais c'est dangereux, c'est dangereux.
Oui.
Et là... Nous sommes en pleine campagne électorale au fédéral. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Carney doit remettre son veston de premier ministre désigné. Et puis là, ben, ça déraille notre campagne électorale
et
ici.
Ça, ben, ça, si ça va bien pour lui, M. Carney, là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, puis qu'il se monte.
Il était déjà, j'ai vu un sondage 50% hier.
Ouais, ben là, s'il se monte premier ministrable.
Ah ouais, ça l'aide.
Premier ministrable.
Ouais, ouais.
Ça jette pas du discrédit, c'est autres, mais ça met de la lumière complètement sur
lui. C'est sûr. Notre campagne électorale, ici, fédérale, nous avons également des enjeux autres que Trump. Là, c'est pas juste Trump dans le monde. On a des enjeux, nous autres, ici. Tout va être évacué. Là. La campagne vient de dérailler, je pense, solidement. Hier, c'était les tarifs sur l'automobile. Dans une semaine, ça peut être d'autres choses. Lundi, ça peut être d'autres choses. Le 2 avril, ça peut être autre chose. Moi, je trouve ça désolant. Puis je trouve ça désolant aussi de voir que ici, on a Carney et Poiliev qui nous promettent des baisses d'impôts alors qu'on a un paquet de problèmes économiques, de productivité, de compétitivité des entreprises. Qu'est-ce qu'on décide de faire? De se priver d'argent. Puis moi, je suis un favorable aux baisses d'impôts d'habitude. Là, hein? Jacques Letourneau pourra te le dire. Là. Je suis son gars de droite. Moi, je suis son commentateur de droite. Mais je pense
besoin de Jacques Letourneau.
Non, mais fiscalement, oui, je suis
pour
de droite.
Ça.
Fiscalement, pour moi, les années Trudeau, ça a été un cauchemar. Je le dis, là. Mais, tu sais, quand je vois même Poiliev promettre de priver le Trésor public de 14 milliards de dollars en baisse d'impôts en ce moment, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on a un Carney qui vient d'arriver, qui vient de débarquer sur la scène politique, qui est à 50% selon un sondage que j'ai vu hier versus 35% pour Poiliev. Le Bloc serait rendu à 4% à l'échelle nationale. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Puis là, en plus, il faut composer avec ce gars-là, l'autre bord.
Oui, il y a quelque chose qui... Puis hier, je me souviens plus qui a dit ça, c'est pas le journée, je pense, que j'ai entendu à la télé dire le renouveau est incarné par un politicien de carrière depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années.
Pierre Poilievre.
Mm-hmm. Et M. Carney, un banquier de 60 ans. Et c'est ça le renouveau politique qu'on propose aux gens.
Et qui a fait de l'évitement fiscal dans sa vie par sa profession.
Certains diront, c'est un plein de trucs. Il va faire ça avec nous autres aussi. Il va bien nous défendre. C'est un plein de trucs.
Oui, c'est un plein de trucs. Mais écoute, depuis un bout, on peut pas dire que l'offre politique est superbe et intéressante. Regarde aux États-Unis. Je veux dire, ils ont eu Biden, Trump, puis là, ils ont eu Biden, Kamala Harris, qui a été pitché là parce que c'était la solution la plus facile.
Qui s'est sacrifié, là.
Tu sais, on peut pas dire que c'est... Mais moi, ce que je comprends pas, là, on en parle des États-Unis, qu'est-ce que tu veux. Il y a personne qui dit rien. Les démocrates sont tellement désorganisés, il se passe rien.
Il commence à y avoir des affaires avec le signal gate, qui est une affaire en soi ahurissante. Les gens ont peur, j'ai l'impression, ça se peut.
Oui, mais il va falloir qu'ils arrêtent d'avoir peur. Parce qu'il est chum avec la Russie,
c'est une façon de faire peur au monde. Vous voyez ce qui arrive avec les opposants au régime en Russie. Checkez-vous bien. Il y a ça qui est sous-entendu, mais aussi la population hors MAGA,
qui n'ont pas voté pour Trump parce que c'est MAGA, là, mais ils ont voté parce qu'ils ne pouvaient pas voter pour une démocrate puis ils ne pouvaient pas voter pour Harris. De sur quoi, je veux
dire... Il faut que ces gens-là se réveillent un moment donné, parce que là... Il y a plein de gens qui n'ont pas voté aussi.
Oui, absolument. Moi, je dis toujours, si tu n'as pas voté, tu te fermes la boîte, là, mais dans les circonstances exceptionnelles, peut-être. En tout cas, c'est profondément inquiétant.
Bon, allons vers le budget.
Le budget, j'écoutais Tommy hier. Bon, lui, il a parlé surtout de logement. Moi, ce qui se dégage de ce budget-là, bon, je vais mettre des chiffres, là, on va mettre des chiffres. On parle de 13,6 milliards qui pourraient atteindre 14,8 selon le scénario des tarifs américains. Bon. On dit que ça représente 1,8 % du PIB, 2,2 après le versement au Fonds des générations. Point de comparaison intéressant que j'ai trouvé dans les journaux. En 94, sous Jean Campeau, on était à 3,4 % du PIB comme déficit. Puis avec Jacques Parizeau, en 1980, l'année du premier référendum, le déficit atteignait 4,7 du PIB. Fait qu'on relativise les choses, on va être positif. Mais moi, ce qui se dégage de ça, de la présentation de Gérard l'autre jour, puis des chiffres dont on nous inonde depuis, c'est qu'on n'a pas de marge de manœuvre, là. Tu sais, on parle de hausse moyenne de tous les ministères confondus d'1,8 % dans les dépenses, alors que c'est inférieur à l'inflation. On parle de 3 % en santé, on parle de 2,2 % en éducation.
C'est un peu comme des coupes, ça, là.
C'est l'équivalent au minimum d'un gel ou de compression.
Ouais.
Parce qu'on sait que l'inflation tourne à entre 2 et 3, puis ça risque de repartir là, avec tout ce qui se passe. Quand tu mets ça en perspective, en rétrospective, plutôt la baisse d'impôts de 2023 de Legault, ces chèques de 500 puis ces chèques de 400 qui ont coûté des milliards au Trésor public puis qui ont été envoyés à tout le monde, on met ça en rétrospective puis on est rendu aujourd'hui. Puis je regardais des chiffres, je me souviens pas dans quel article que j'ai vu ça, mais la famille moyenne au Québec, là, en taxes et impôts, OK, on combine tout, là, taxes et impôts, bien, ce qu'on verse, là, 44 % va à la santé, 22,4 % va à l'éducation, la sécurité publique, c'est 12,8 % et tout le reste, donc ce qu'on met dans la catégorie haute, c'est 20,8 %. Donc, ta pièce, là, en impôts et en taxes, voilà. Donc, près de la moitié qui va en santé, on voit tous les problèmes. Là, on vient d'apprendre hier que la rénovation de Rosemont et Maisonneuve s'est mis sur le haut jusqu'à chaque fois.
Mais c'est
parce que c'est en train de tomber à terre, cette bâtisse-là. Là.
C'est un hôpital important. Là.
Ben oui, c'est un hôpital qui dessert tout l'est de Montréal. Et en temps normal, je dirais une partie de la rive sud, quoi qu'on essaye d'éviter d'aller là en raison du tunnel depuis quelque temps. Mais, tu sais, on est rendu à une dette nette du Québec de 236 milliards. Tu sais, si on relativise tous nos chiffres par rapport à d'autres puis on se compare à pire, ça va. Mais je trouve qu'on risque beaucoup, à la fois au Canada en nous promettant des baisses d'impôts et au Québec.
Ouais.
Parce qu'on évalue les risques de récession, puis ça, c'était avant la lubie d'hier là, sur les tarifs d'automobile. C'est Girard qui estimait qu'on était à risque entre 40 et 50 % de récession. Donc, si on tombe en récession, si des gens perdent leur emploi, comme ça va être le cas en Ontario, là, ça va faire mal. Là. Et ici, on a Packard là, qui exportait toute sa production est exportée aux États-Unis. Il y a plein d'industries, puis de sous-traitants, puis de fournisseurs. Puis... Mais là, on va faire quoi? Comment qu'on va les aider si on est en train de baisser les impôts? Promettre des baisses d'impôts, puis il faut augmenter nos dépenses militaires, il faut faire ci, il faut faire ça.
J'ai parlé hier avec un fiscaliste de Grant Thornton, il dit, pour ainsi dire, là, il dit, c'est 15 milliards d'abord. Puis là, au début de l'entrevue, je dis, on parle de 13 milliards de déficit. Hein,
oui, mais budget. Ça, c'est le chef qui a donné si on avait des tarifs de 10
%. Ce que le fiscaliste disait hier en entrevue de M. Gilbert de Grant Thornton, il disait c'est 15 milliards. Sachez-le,
ça va être ça. Ah, ben ça va être plus élevé qu'il annonce.
Ça va aller au-delà de tout ça aussi.
Ben, c'est parce que là,
il y aura des mises à jour régulières.
Ben oui, parce qu'on est devant une incertitude. Monsieur Girard, il a préparé son budget à la lumière des données qu'il avait.
Ben oui. Et en disant, ça va être 10 % pendant 2 ans, au pire.
C'est son scénario optimiste. Ça, c'est optimiste.
Bon, oui.
Mais c'est sûr que ça peut être pire que ça. Alors, écoute, c'est ce qu'on vit là. C'est absolument inédit dans l'histoire moderne, en tout cas. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Puis, tu sais, les gens disent, ouais, mais il va y avoir les mi-mandats, ça va se calmer. Ben là, c'est dans 2 ans, un an et demi, les mi-mandats. Imagine les dommages qu'il peut faire.
Il est capable de spinner puis de trouver une autre crise qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de mi-mandat, puis il est capable de trouver une autre crise.
Il est capable de tout, on dirait.
Plein de trucs dans son chapeau, ils vont être capables de trouver peut-être quelque chose qui va retarder l'élection présidentielle dans 4 ans aussi.
C'est absolument inquiétant.
Regardez-le aller, ce diable d'homme. Hey, en terminant, parlons de M. Carney qui refuse d'aller débattre en France.
Ben oui, c'est rendu une vieille nouvelle. Moi, je trouve ça, écoute...
Parlons-en quand même, ça
trouve ça
pareil.
Moi, je trouve... Alors que, on va mettre ça en contexte. Un, j'ai un gros malaise avec le fait que TVA exigeait 75 000 $ à chaque partie pour débattre. Bon, on sait que TVA a des problèmes financiers, mais est-ce que c'est à ce point? On peut se poser la question, puis ça crée un précédent. Hein? Mm-hmm. Bon, cela étant dit, je trouve en effet très regrettable ce que les libéraux ont décidé. Et j'entendais hier...
Ce qu'ils ont dit substantiellement, c'était qu'ils étaient contre l'idée de payer d'abord.
L'idée de payer.
Les Verts aussi qui étaient
C'est ça. Après ça, ça a été... Ben, les Verts ne sont pas invités, on ne veut pas y aller. Ça m'a fait rire. Là. Écoute, c'est rire du monde. Je trouve ça regrettable parce que, bon, moi, j'écoute, je suis un ardent... auditeur de ces débats-là, j'en manque pas un.
T'aimes ça.
Puis le face-à-face a un format différent du débat organisé par le consortium. Et ça expose donc les candidats différemment au public.
Mais au final, c'est bien plus au bloc que ça nuit.
Bien, ça nuit, oui, c'est sûr que ça nuit au bloc. C'est sûr. Puis on voit les chiffres au bloc qui descendent. Hein? Au Québec, là, M. Carney, c'est quasiment rendu un demi-dieu, là, si on se fait au sondage. Alors, non, je trouve ça fort regrettable. Je ne sais pas s'il va avoir un revirement. Je ne penserais pas.
Une campagne rapide. Hein?
Ça démontre l'idée que bien des gens ont, c'est que M. Carney a peur de se fourvoyer dans son français. Donc, il s'est trouvé une porte de sortie.
Alors qu'il y a eu bien pire que ça.
Bien, je l'écoute, Carney, puis il n'est pas toujours facile à comprendre. Puis dans un cadre de débat, je pense qu'il va se faire massacrer.
Je ne veux pas le défendre, mais il y aurait un talent pour apprendre le français. Plus.
Oui, certainement. Oui. Mais là, il n'a pas le temps de le faire.
Exactement.
Puis il sait. Puis je pense qu'il sait que le moins qu'il s'expose dans le cadre d'un débat en français, ça l'aide. Parce que lui, je suis sûr, on va voir, il va en avoir un seul débat. Puis c'est pas le même format. Puis il y a moins de one-on-one. Mais lui, se faire ramasser par un ou l'autre, là, puis être obligé de réagir vite, puis parler vite.
Il
va s'enfarger dans ses mots, ça sera pas possible.
Mais il va se le faire dire quand même à plusieurs reprises qu'il a refusé le débat.
Oui, absolument. Puis qu'il talonne là-dessus. Parce que, écoute, moi, je trouve que c'est inacceptable. Il veut être premier ministre d'un pays avec 2 langues officielles, puis je trouve ça regrettable sur le plan démocratique.
Partis politiques confondus, vous avez besoin d'un conseiller appelé Sébastien Saint-François.
Mais démocratiquement, pour nous tous, nous en sortons perdants.
Tout à fait, au final. Oui, c'est un débat de moins.
Oui. Puis il n'y en a pas énormément. Là. Il va en avoir deux. Un en anglais, puis un français.
Une campagne ultra rapide aussi. Ouais. Merci, Sébastien.
Bonne semaine.
Bonne semaine à toi, Sébastien Saint-François.